France Musique. Bonjour Jules Dussap et Gabrielle Lafay.
Bonjour Saskia.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes tous les deux membres du Quatuor Hanson. Jules, vous êtes violoniste. Vous êtes né en 1990 à Clermont-Ferrand. Gabrielle, vous êtes altiste. Vous êtes né en 1991, à Reims. Vous êtes donc tous les deux membres de ce Quatuor Hanson aux côtés de Anton Hanson et de Simon Deschamps. Quatuor qui existe déjà depuis un petit moment. Depuis combien de temps?
Eh ben, ça va faire 6 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Et voilà, on s'est formé en 2013 quand on s'est rencontrés au Conservatoire National Supérieur de Paris. Et c'est une très belle aventure que nous vivons actuellement depuis quelques années maintenant.
Qu'est-ce qui a provoqué l'étincelle, Gabrielle Lafay?
Je pense qu'on était tous rassemblés, en tout cas autour de cette passion qu'est la musique de chambre. Et en fait, on avait vraiment une affinité aussi amicale tous les quatre. Et puis, on a vraiment décidé dès le début d'être sérieusement impliqués dans le projet. Et puis on avait quelque chose dans nos énergies, en tout cas en commun, qui nous a vraiment plu. Et voilà, je pense que ça part de ça.
C'est déjà pas mal. Alors, quand on parle de quatuor à cordes, peut-on parler de comment je pourrais dire ça, de représentation sonore la plus parfaite de ce qu'est l'équilibre en musique, Jules Dussap?
Alors oui, on peut parler de d'équilibre sonore parce que déjà on est quatre instruments à cordes avec chacun un timbre particulier. Même si on a deux violons, les deux parties sont complètement différentes. Et finalement, le quatuor, c'est tout un travail autour du son, autour de la justesse, autour de l'articulation, qui rend cette formation absolument passionnante et qui fait que notre travail est absolument sans fin, en fait.
Est en construction
permanente et en évolution permanente.
Vous avez des mentors ou des personnes qui vous suivent, des musiciens qui vous conseillent encore aujourd'hui, Gabrielle Lafay?
C'est vrai qu'on est parti à Vienne vivre quelques mois là-bas il y a quelques années, donc on a rencontré beaucoup de musiciens là-bas autrichiens, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé aussi, ça nous a inspiré. On a pu échanger en fait autour de compositeurs autrichiens, ce qui était très intéressant. On a aussi travaillé, on travaille encore avec le Quatuor Ebène, donc on a aussi toute cette inspiration du Quatuor français. Et du coup, ils ont une richesse incroyable, le Quatuor Ebène, au niveau des couleurs, et donc on s'en est beaucoup inspiré. Et voilà, donc on essaie de prendre tout ce que les gens peuvent nous apporter, de créer vraiment aussi notre propre histoire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on continue à avoir des conseils, mais on préfère aussi évoluer vraiment tous les quatre. Et c'est vraiment quand on sent qu'on est un peu en panne d'idées, en panne de conseils, qu'on va avoir d'autres gens aussi.
Quel est le conseil que vous avez reçu et que vous n'êtes toujours pas parvenu à appliquer?
Ah, la question piège.
Alors ça, c'est pas facile.
S'il y en a.
Mais je pense que c'est sans fin, en fait, le travail, faire l'interprétation. On est... Même si ça fait à faire 2 ans qu'on joue une pièce qu'on pense nous aller, enfin qui nous va bien, on a l'impression de jamais atteindre la perfection. Et c'est aussi ça, surtout pendant le concert, c'est la magie. On va trouver que tel mouvement a été vraiment, qu'on a touché quelque chose de spécial, et puis on va être déçu de d'autres paramètres. Mais je pense que c'est sans fin, et c'est pourquoi aussi on fait ce métier, c'est une vraie recherche constante.
Et un tonnerre d'applaudissements pour le Quatuor Hanson ici pour ce final du Quatuor Opus 33 numéro 5 de Joseph Haydn interprété sur France Musique. C'était en 2007 dans l'émission Plaisir du Quatuor. Gabriel Lafay et Jules Dussap, décidément, sont avec nous ce matin pour nous parler de cet excellent Quatuor Hanson. Joseph Haydn qui a une place particulière aussi dans votre histoire, dans votre parcours, Jules Dussap.
Oui.
Je parle du parcours du Quatuor, bien sûr.
Bah, tout à fait, parce que Haydn, finalement, c'est un compositeur qui nous suit un peu depuis nos débuts. C'est un compositeur avec lequel on a commencé finalement le quatuor, parce que c'est le père du quatuor à cordes, c'est le premier à avoir vraiment écrit pour cette formation-là. Il y a plus de 70 quatuors, ce qui est colossal. Et finalement, nous, ce qu'on aime chez ce compositeur, c'est vraiment toute la finesse, tout l'humour qui s'en dégage. Et on essaie toujours d'avoir un quatuor de Haydn avec nous, qui nous suit en permanence.
Dans chaque programme de concert ?
Quasiment dans chaque programme de concert.
Et puis vous sortez de studio aussi ?
Oui, bah on vient d'enregistrer en deux sessions du coup 6 quatuors de Haydn. Donc le but de ce projet, c'était vraiment d'avoir un panel très large. Justement, Jules parlait des variétés de caractères. En fait, c'est vrai qu'on a découvert des quatuors vraiment où il y avait des bijoux, des choses incroyables. Donc on part de l'opus 20 et on termine par l'opus 77 qui est son dernier quatuor achevé. Donc voilà, c'est vraiment des petites pépites qu'on a trouvées grâce aussi à des rencontres en fait. Enfin, des fois on cherchait, on déchiffrait plein de choses et on découvrait un mouvement sublime. Et donc c'était vraiment très intéressant comme recherche.
Et c'est ça qui vous a permis de faire le tri. Ce sera un premier disque qui paraîtra à l'automne prochain chez Aparté. On se réjouit en tout cas de découvrir ça. Un premier disque au bout de 6 ans, enfin, j'ai envie de dire. Oui. C'était... Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, d'ailleurs ?
Moi, je pense que c'était aussi... Enfin, voilà, il y a toujours une espèce de... un peu de pression pour le premier disque. Et on voulait vraiment le faire autour de Haydn, mais on ne trouvait pas forcément la formule qui nous convenait. Est-ce qu'on faisait un opus en entier ? Est-ce qu'on faisait 3 quatuors ? Mais des fois, ça peut faire un peu peut-être trop premier CD. On savait pas trop. Et en fait, c'est vrai que l'idée des 6 de recréer un opus en fait à notre image, voilà, c'est vrai que c'est. Puis pour un premier enregistrement, 2 sessions, c'était très intense, mais c'était un vrai plaisir. Voilà.
Ouais. Et puis
j'ai dit ça.
Et puis finalement, c'est normal qu'on ait besoin aussi d'un certain temps de maturation et d'arriver à une certaine maturité en tant que quatuor. Pour se dire, voilà, notre premier disque nous représente vraiment. Et on sera, je l'espère, qu'on sera très content de ce premier enregistrement. Et que dans quelques années, on pourra se dire, ça, c'était nous à cette époque-là. Et on est toujours aussi fiers.
Vous, les 4 membres du Quatuor Hanson, qui avaient chacun, j'imagine aussi, vos sources d'inspiration propres. Et puis parmi ces sources d'inspiration, il y a par exemple ceci. Jules Dussap, on va vous écouter. Un peu de jazz manouche aussi, Jules Dussap. Il n'y a pas que Haydn dans la vie.
Alors, non, effectivement.
Ça, c'était il y a quelques semaines à peine.
Oui, alors je sais pas où est-ce que vous avez trouvé
les réseaux sociaux, on trouve plein de choses sur les réseaux sociaux.
Bah oui, écoutez, bah, c'est vrai que je fais pas mal de jazz manouche à côté et que c'est un complément, c'est un plus.
Qu'est-ce que ça apporte à la musique classique ?
Pour moi, c'est une vraie source de liberté et parce que c'est une autre manière d'être interprète en fait. Parce qu'en jazz, on a
beaucoup plus dans l'improvisation,
qui est complètement improvisatoire. On reste dans un cadre harmonique et dans une certaine structure, mais on a une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande.
Gabriel l'a fait.
Ouais, ben je suis assez d'accord. Enfin, même si je pratique pas comme Jules. Enfin, c'est vrai que j'ai aussi une affinité particulière pour cette musique. Et en fait, j'ai l'impression que même chez un compositeur qui est Joseph Haydn, en fait, on va chercher. C'est pas de la musique improvisée, mais on va chercher cette liberté, en fait, une certaine fantaisie. Par exemple, je pense à Anton, notre premier violon, qui va chercher des ornementations. Et en fait, chaque concert peut être différent. Et des fois, il va nous faire ce plaisir d'ornementer une phrase, quelque chose qu'il aura jamais fait. Je m'en rappelle à une émission de radio dans un mouvement lent et c'est hyper touchant. Et je trouve que d'avoir cette liberté aussi dans la musique classique, je pense que c'est ça qu'il faut chercher aussi.
Totalement. C'est pour moi, on peut pas déconnecter la musique dite classique et écrite du côté improvisatoire. puisque finalement les gens qui l'interprétaient, les musiciens qui interprétaient cette musique à l'époque, se permettaient aussi d'ornementer, ouais, et d'improviser et autour.
D'y mettre leur touche personnelle.
Et d'y mettre leur touche personnelle.
Quelques mesures de cet Andante, deuxième mouvement du Quatuor, numéro 2 en la mineure de Johannes Brahms, interprété en live au Festival de Deauville. C'était l'été dernier, enregistrement de musique aquarelle ici pour le Quatuor Hanson. Alors Brahms, Haydn, mais il y aura de la musique française au programme de ce concert que vous donnerez le 16 mai prochain à la Fondation Polignac à Paris. Vous nous dites quelques mots de ce programme, Jules Dussalle.
Oui, alors ça va être un très beau concert, puisque donc il y aura un arrangement pour septuor à cordes de l'Adagio de Guillaume Lequeux.
Qui est à l'origine pour Quatuor?
Non, qui est à l'origine pour orchestre à cordes.
Pour orchestre à cordes, voilà.
Pour orchestre à cordes, qui a été arrangé par Julien Giraudet, si je ne me trompe pas, et qui a un magnifique arrangement de cet Adagio de Guillaume Lequeux, qui est une pièce quasiment inconnue. Guillaume Lequeux, qui est un compositeur français décédé à 23 ans, extrêmement jeune, mais c'est une pièce magnifique. Et aussi, bien sûr, le concert d'Ernest Chausson pour violon, solo, piano et quatuor à cordes, où nous aurons la chance de jouer avec Théo et Pierre Fouchéneret. Donc ça va être un sublime concert.
Une très belle équipe, évidemment, réunie autour de ce concert. Cet arrangement pour septuor de cet Adagio, ces arrangements, je pense au Quatuor Zaï, qui est venu il n'y a pas longtemps avec ce nouveau disque qui propose des arrangements d'air d'opéra, d'air de La Flûte Enchantée, pour être exact, de Mozart. Vous seriez intéressé par ce genre de recherche ou de projet, Gabriel Laffey?
C'est toujours intéressant de réarranger certaines pièces. Je trouve que ça peut donner des éclairages différents. Enfin, c'est vrai que j'ai écouté l'air de La Reine de la Nuit par le Quatuor Zaïd, et c'est vrai que ça donne vraiment un éclairage autre.
Et ça marche extrêmement bien avec le Quatuor à cordes, l'opéra.
Vu qu'en fait, je reviens à Haydn, mais en tout cas, c'est pareil dans Mozart. On trouve toujours ce dialogue entre les instruments, et en fait, surtout chez Mozart, il y a un côté vraiment vocal, et je trouve qu'elles ont vraiment réussi à faire ressentir cet état d'esprit, quoi.
On peut dire que le Quatuor à cordes français se porte bien.
Oui,
c'est plutôt riche, c'est vrai, quand on pense à tous ces quatuors, Harold van Kuik, Voce, Zaïd et le vôtre, c'est une formation qui fonctionne, qui est très très riche ici.
C'est une formation qui est très riche, et surtout j'ai l'impression dans les jeunes générations dont nous faisons partie, il y a une vraie émulation autour de cette formation, et je pense que c'est aussi grâce à certains quatuors comme les Ben qui ont finalement formé toute une pépinière et toute une nouvelle génération de quatuors français. On a la chance de bénéficier de ce vivier.
Et de ce sillon tracé.
Et de ce sillon tracé, exactement, oui.
Il y a énormément de concerts à venir pour le Quatuor Hanson, notamment, je le disais, le 16 mai à la Fondation Polignac à Paris, le 23 mai au Festival de l'EPO et le 2 juin prochain au Musical de l'Orangerie avec Aurel Martin à vos côtés pour ce concert, et puis plein d'autres dates cet été, évidemment, à retrouver sur le site francemusique.fr, sur la page de Musique Matin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir.
Merci beaucoup.
À très bientôt, et courez au concert. Écoutez le Quatuor Hanson. Thank you. le quatrième mouvement de ce quatuor en sol mineur de Claude Debussy par le Quatuor Hanson, encore extrait de ses plaisirs, de ce plaisir du quatuor 2017, c'était sur France Musique. Il est 8h50. Bonjour Guillaume Thion.
Bonjour Saskia.
Alors quoi de mieux aujourd'hui ?
Je suis debout sur une estrade, je bats des bras et tout le monde me regarde. Je suis...
un homme politique.
Presque. Ce matin, nous allons grimper au sommet de la pyramide, sur une crête où l'on respire l'air raréfié de la haute hiérarchie. Nous allons parler des chefs d'orchestre.
Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu, on ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention, faites très attention. Hein. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphant, je n'ai pas envie
de... C'est évidemment un cliché de poser ici cet extrait de La Grande Vadrouille qui date de plus d'une cinquantaine d'années, d'autant qu'elle est rediffusée toutes les semaines à la télé. Mais pour beaucoup de gens, un chef d'orchestre, c'est ça. Le type qui gueule quand il n'est pas content, ce qu'il est rarement. Dans l'imaginaire collectif, le chef est le dépositaire sévère de l'autorité, un peu comme ton père quand il fait la gueule, seulement que le chef, l'enfant, tu n'es pas obligé de lui offrir un cadeau à la fête des pères, ou alors il y a quand même un petit problème. Cet archétype ne vient pas de nulle part. Le grand Toscanini possédait ce genre de caractère. Des témoins estimaient même qu'il se comportait en dictateur avec ses orchestres, comme le montrent certains de ses enregistrements de répétition où il parle plutôt fraîchement à ses musiciens. Écoutez-le. Mais tous les chefs ne sont pas comme ça. L'orchestre, on peut le diriger ou le conduire, c'est selon, et dans le deuxième cas, tu sens bien que la position hiérarchique est plus souple. Alors d'abord, on va s'intéresser au travail du chef. C'est vrai ça, on ne voit que lui et ses grands gestes. Mais à quoi sert-il ?
À faire en sorte que les œuvres soient bien interprétées ?
À gérer un orchestre et à composer une saison. Le chef doit faire exactement ce qu'on ne vient pas de faire, Saskia. Certes, il bat la mesure et donne le tempo, mais ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Il doit fédérer tous les musiciens pour que les choses aillent, sinon dans le bon sens, du moins dans le même sens. Tout le monde aime la musique, nous sommes d'accord, et chacun a une vision différente des œuvres. Le chef, qui est d'abord un musicien, est là pour éviter que les différentes voix se contredisent ou se chevauchent.
Cela veut dire que son avis prime toujours ?
Cela veut dire que son avis est admis par tous, car il s'appuie sur une lecture rigoureuse des indications de la partition, sur une remise en contexte de l'œuvre qu'il peut faire partager à la fosse et sur une vision.
C'est quoi une vision, Guillaume ?
À peu près tout et rien, mais à peu près seulement. Alors voilà ce que nous racontait Tougen Sokiev, qui dirige l'orchestre du Capitole de Toulouse et du Bolchoï. C'est que les musiciens sont des professionnels qui peuvent jouer à la perfection ce qu'on leur donne et que la partition et que les partitions sont truffées d'indications de jeu.
Le chef n'a aucune raison d'être alors ?
Et pourtant, il est là. Il est là donc pour expliquer ce qu'il y a entre les notes, le sens profond caché ou non dit de l'œuvre. Car en réalité, le chef n'impose pas son avis avec un marteau, il convainc les musiciens de jouer de la façon dont ils le désirent. Et allons même plus loin, il en va autant de l'artistique que de l'humain. Le maestro canadien Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera, nous expliquait qu'un des rôles du chef est de réunir les conditions pour que chaque musicien donne le meilleur de lui-même. Là, on n'est plus du tout dans le respect de la croche pointée, l'aspect pédagogique est bien plus fort. C'est l'exemple typique du solo, par exemple, que le chef peut concevoir d'une façon différente que le soliste, mais à qui il doit laisser les coudées franches. Car l'harmonie recherchée, dans l'interprétation doit aussi se retrouver dans la communication et les rapports humains.
Oui, mais comment trouver cette harmonie ? Le chef n'est pas non plus un psychologue ?
Non, évidemment. Et les situations ne sont pas les mêmes si le chef est le directeur musical de l'orchestre ou un chef invité qui côtoie occasionnellement les musiciens. Il aura dans ce cas moins de légitimité, voire d'appétit, à vouloir imposer des choses. À quoi sert de s'engueuler, en effet, si on se voit peu ? Mais, grosso modo, on retrouve quand même deux grands types de comportements. Le chef patriarcal et le chef entrepreneurial. Vous pouvez noter. Dans le premier cas, le système est vertical. Le rôle du chef est écrasant, il s'occupe de tout et transforme la fosse en une réunion de famille. De l'autre, le système est horizontal, le chef se comporte davantage en gestionnaire et délègue aux musiciens certains pouvoirs. Les deux attitudes ont évidemment leurs limites. Le chef patriarcal peut devenir un gourou irascible, le chef entrepreneurial peut transformer sa fosse en foire de l'ultralibéralisme. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos. Un chef entrepreneurial va responsabiliser les chefs de pupitre de son orchestre en leur demandant de contrôler que les musiciens toutistes, moins exposés, fassent bien leur travail. Il instaure ainsi une délégation et force ses cadres et les musiciens du rang à s'impliquer. Génial. Un chef patriarcal va débarquer avec son orchestre dans une salle et par exemple interrompre deux fois la répétition pour demander qu'on vérifie le piano. Il instaure ainsi un sentiment de défiance à l'égard de la salle qu'il a invitée, qu'il accuse implicitement de leur fournir un mauvais piano et renforce la cohérence de son propre orchestre qu'il semble défendre alors que personne ne l'attaque. Génial. Maintenant, est-ce que la vie de musicien est plus facile sans chef? Il faut peut-être le demander à nos amis chambristes.
Mais oui, c'est vrai, ça c'est une question. Est-ce que c'est plus facile la vie sans chef, Gabriel l'a fait?
Je pense que vu qu'on est quatre musiciens, c'est déjà compliqué en fait d'avoir quatre personnalités vraiment différentes et de les mettre en commun. Et c'est vrai qu'on joue tour à tour le rôle du chef, en tout cas pour les départs, mais on essaie vraiment d'avoir comme on l'entendait, d'avoir quelque chose en commun. Donc le chef est seul à avoir cette vision et nous, tous les quatre, il faut qu'on arrive à construire quelque chose où tout le monde
une vision
se retrouve.
Commune.
Voilà, c'est ça.
Merci Gabriel Lafay et Jules Dessab. Merci à Guillaume Thion pour cette chronique.
Merci à vous.
Que vous pouvez podcaster sur le site de France Musique, visionner sur les réseaux sociaux. Une chronique réalisée en partenariat avec le quotidien Libération. Bonne journée Guillaume.
Aussi, bonne journée.
Le pianiste Éric Lesage, ici pour ce sixième nocturne, les premières mesures, du moins de ce nocturne de Gabriel Fauré, pour accueillir Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier pour l'émission En Piste. Bonjour.
Bonjour Saskia. Nous allons ouvrir cette émission avec l'art de Kirill Kondrachin. Je ne sais pas si vous connaissez ce
absolument.
Grand chef russe, un coffret de 13 disques absolument passionnant.
Et qu'on découvrira sur France Musique dans un instant. Merci à Yacine Bouzard, Pauline Boisaubert, Max Dozolm, Antoine Baglin, Ludovic Auger et Antoine Giraud. Et merci à vous de choisir Musique Matin pour ouvrir l'œil. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.